France Inter.
Au centre, c'est toujours bien écrit, au cœur précis de la copie, c'est mesuré, c'est calibré. Et puis il y a des points sur les i ou non, des ronds, c'est plus joli. En marge, le trait a dérapé, le point d'exclamation fâché, et puis la ligne s'est brisée, ça se percute, ça pète, ça claque, et là, c'est un zéro pointé. Alors qu'au centre, il y a des déliés, des pleins, des virgules ajustés, une parenthèse ouverte, fermée, une pirouette, le stylo brille, et c'est en marge qu'il va vriller. Au centre, c'est lisse, au centre, ça glisse, trop fort, trop vite, oui, mais le ciel, c'est la limite. Au centre, on est tous convaincus d'avoir le contrôle, la maîtrise, alors on file tout droit, ça grise, et paf, le mur, j'avais pas vu. J'ai dérapé, et j'ai vrillé, et dans la marge, j'ai débordé. En petites miettes fracassées et façon puzzle éparpillée, un peu sonnée, coton nausé, ma tête d'abord, elle a tourné, 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 nouvelle pirouette et je décolle, j'avais des ailes, je savais pas. Et je m'envole où je vais, comme ça, en marge, en vrai, qu'est-ce qu'on rigole. On se marre quand on s'est relevé, c'est la beauté, décabossé. Alors heureux, sois les fêlés.
En marge. Julia Foyce sur France Inter.
Ça fait du bien quand ça s'arrête. J'ai 18 ans et pour la première fois de ma vie, j'ai envie que ça s'arrête. C'est décidé, après les championnats de France, j'arrête.
Bon, au final, c'est les championnats de France qui ont décidé de m'arrêter. En plein milieu de mon programme, mon lacet se défait. Je tombe et je vais mettre du temps à me relever.
Bonsoir, bienvenue François Mallet.
Bonsoir, merci de me recevoir.
J'ai mis du temps à me relever, vous nous raconterez ce soir vos chutes, vos plaies, vos bosses et vos pirouettes, oui, vos grands jetés aussi. Heureux soient les fêlés, c'est le titre de votre seul en scène, il sonne un peu comme une conquête, comme une victoire ce titre, ou alors comme un cri de ralliement.
Oui, c'est très juste, c'est un spectacle qui est né après une longue introspection. Tout ce qui est abordé dedans a pris du temps. Il a fallu que ça macère pas mal et c'est un bonheur maintenant de pouvoir partager
tout ça. Pour vous approprier la matière, pour retourner le stigmate, parce que vous le dites sur scène, hein, les stigmates liés à la psychiatrie et à ceux qui y ont recours sont encore très très forts. Il y a une urgence pour vous à parler de santé mentale?
Oui, il y a une urgence à en parler parce que c'était une urgence pour moi, premièrement. Donc du coup, c'est parti de là et je me suis dit, si c'est une urgence pour moi, j'ai bien vu, et on y reviendra, les affres de la psychiatrie, les hospitalisations publiques, privées, les séances de thérapie, on est bien plus nombreux et nombreuses à être concernés. Et quand j'ai pris conscience de ça, je me suis dit, je pense que mon petit bout de chemin que j'ai fait dans ce monde-là, pas mal de personnes sont concernées et c'est important de témoigner. Et puis, notre monde va mal, hein, disons-le quand même.
Quand on dit « je vois un psychiatre » ou quand on dit « je suis bipolaire » ou « autre », en général, le regard, c'est quoi ?
Psychiatre, je vois encore un peu de la peur. Ça va un peu mieux, je pense, que par rapport aux personnes qui disaient ça il y a 10, 15 ou 30, ou 30 ans. Mais je vois qu'il y a soit de la peur, soit une espèce de curiosité ou un truc qui semble un peu exotique de « Ah, ok, moi je connais un peu psychologue, je vais en voir un ou une, tout ça. » Mais là, psychiatre, c'est un ou une médecin, donc c'est grave. Voilà. Psychologue, c'est à la mode, alors que c'est très important et que c'est très complémentaire avec plein d'autres choses. Psychiatre, c'est de la médecine, donc c'est grave.
Du patinage artistique à l'hôpital psychiatrique en passant par Sciences Po, par la Gay Pride et par le divan du psy, vous sautez allègrement d'une case à l'autre. Il faut dire que vous en cochez pas mal, hein, François. Ceci vous amène jusqu'à nous, studio 180 de la Maison de la Radio. Et sur la table est devant vous ce miroir. Il est rond, il est doré, il est plein de doigts aussi sur la, glace. Voilà. Un jour ou l'autre, je m'en occuperai.
Je ne m'étais pas encore regardé aujourd'hui.
Donc, alors
Je vois, j'étais malade la semaine dernière, donc je vois que j'ai repris des couleurs. Mm-hmm. Ça fait plaisir. Je vois beaucoup d'envie.
Sur la question de votre reflet, vous dites « je ne me suis pas encore regardé aujourd'hui ». Vous regardez souvent, vous inspectez, vous auscultez.
Au quotidien chez moi, par exemple, du coup, le miroir de la salle de bain, en l'occurrence, par exemple, très peu. Je vois, je passe, je ne me regarde pas beaucoup. Ouais. Je trouve ça très compliqué. Je suis dans le milieu de la scène. Je trouve ça, c'est très compliqué pour moi de me voir en vidéo quand c'est des vidéos de scène ou autre. Par contre, je me regarde beaucoup en photo.
Surtout que vous vous donnez beaucoup sur scène. Il y a des numéros chorégraphiés.
Je crois qu'il y a toujours quelque chose qui, au niveau du corps, je suis à la fois. Je trouve ça à la fois très beau chez les autres d'être très grand et très mince. Ouais. Et chez moi, je sais pas si ça vient du moment du patinage, et pourtant c'était très mis en valeur le fait d'être élancé, mais je crois qu'il y a eu un truc à l'adolescent où je voyais beaucoup de patineurs qui commençaient à se muscler, et c'était très valorisé, et ça n'a pas été mon cas. Et je vois que j'ai encore du mal avec le fait d'être grand et mince en même temps. Je crois qu'il y a un peu de ça.
France Inter. En marge.
C'est parfait. Ça me fait du bien, ça me rassure.
C'est vrai?
Ah ouais. Là, je pourrais me rendormir pendant 3 heures, quoi. C'est dingue ce que ça va... Ouais.
Vous êtes où, avec qui, quand vous entendez ce générique des Feux de l'Amour?
Eh ben, je suis avec ma grand-mère paternelle. Qui est toujours de ce monde. On est donc dans le département de l'Ain, dans un petit village qui s'appelle Chalamont, dans la grande maison de mes grands-parents. À l'époque, mon grand-père est encore là, mais lui, il dort dans la chambre bien plus loin. Et c'est... Alors, je ne sais pas à quelle heure ça passe exactement. Moi, dans mes souvenirs, c'est entre 13h et 14h.
Ouais, c'est ça, c'est la
ouais, journée, on a fini de manger. C'est un peu le seul moment où je vois ma grand-mère, qui est toujours très active, se reposer. Rien de grave ne peut m'arriver... Je me sens protégée, quoi.
Avec vous, il y a votre grand-mère, et puis votre mère, et puis votre belle-mère aussi, élevée par des femmes. Quelle idée du féminin et en creux, finalement, du masculin, est-ce que ça a pu vous donner ?
Je crois très rapidement le fait que c'était les femmes qui étaient en charge, donc notamment de l'éducation, doublé en plus du fait que ma maman est donc institutrice, ma belle-mère l'est aussi, donc en plus, j'avais cette double chose de... Ok, vraiment, c'est les femmes qui éduquent les enfants à la maison et à l'école. Et du coup, la figure paternelle, quelque chose à la fois dans le travail et où j'avais pas l'impression que c'était quelque part un abandon de poste, juste que c'était la répartition et que par contre, j'avais conscience, en tout cas, c'était comme ça avec mon papa, que la figure masculine, elle allait être présente à un moment quand elle allait envie de surgir un peu et qu'il fallait que moi, je sois présent à ce moment-là parce que c'est à ce moment-là qu'on pourrait discuter, rigoler, se chamailler et qu'après, ça serait de retour avec le monde des femmes, quoi.
Vous êtes le seul garçon malais, votre père s'appelle Jean-François, et vous donc François, vous êtes l'héritier, il y a quelque chose de cet ordre-là, c'était à vous de poursuivre la lignée.
Oui, je pense que je l'ai senti un peu, et puis après on me l'a dit, alors j'ai plus les formules en tête, mais je crois que mon grand-père paternel, c'était très important pour lui, je pense qu'il aurait aimé que je reprenne la ferme par la suite. Ouais, et puis donc, comme ce que vous dites, un truc très masculin, de ça sera le seul garçon à porter le nom malais, et il faudra perdurer. si seulement Baptiste savait, bref.
Et voilà, voilà.
Mais il y avait un truc comme ça, et parce qu'en plus, au début, je disais que je voulais être agriculteur, donc je pense qu'ils se sont un peu montés le bourrichon là-dessus.
Mais les plans ne sont là que pour être allègrement torpillés, transgressés. Hein. Des rapports complexes avec votre père, disons qu'il prend de la place, le bonhomme solaire, oui, mais ses colères sont explosives. Votre mère, en revanche, plus douce, plus émotive, à fleur de peau, même de personnalité forte, vos parents, aussi forts qu'ils se sont aimés, mais entre eux, ça finit par se heurter, par piquer, par gratter un peu. Ils se séparent. Vous avez 1 an et demi. Vous passerez le reste de votre enfance un pied dans chaque vie. Deux maisons, deux familles recomposées. Vous en foutez, vous avez vos bonnes fées. La Belle au bois dormant, vous la regardez en boucle. Amélie Mauresmo, en poster, sur le mur, affichée. Et puis elle, la seule, l'unique, Jennifer, vous l'aimez? Non, vous l'adorez.
Dans ma tête, j'ai des chevaux.
C'est Quentin qui va être content.
Vous savez que là, tant que le rouge est allumé, tout est enregistré.
Super.
Ça nous va très bien, Quentin, votre metteur en scène, qui effectivement rit, glousse même, en régie.
Il est rouge, aussi rouge que,
que la lumière
aussi rouge
studio.
Que l'enregistrement.
présente Jennifer dans votre histoire. À ce moment-là, elle est qui pour vous ?
Déjà une quatrième figure féminine. Je pense que c'est une époque où j'essaie de les collectionner, donc ça devient la référente un peu d'une grande sœur, parce que j'ai conscience, j'ai pas conscience qu'elle a 18 ans à l'époque, je crois, mais il me semble toutes ces personnes à la Star Academy très adultes, mais voilà, je vois que c'est quand même donc une quatrième figure féminine. J'ai très envie de lui ressembler aussi, il y a quelque chose de l'identification. Je pense que c'est une époque où, alors que j'ai déjà que 6-7 ans, je me sens pas forcément, enfin, j'ai pas une idée précise de ce que c'est être garçon ou de se sentir garçon, et je suis très attiré à l'école, y compris je joue beaucoup avec les filles par la figure féminine, et là je me dis, elle a l'air tellement bien dans sa peau, elle chante divinement bien, elle est sur scène, tout le monde la regarde, j'ai envie d'être comme elle.
Elle chante l'amour là, l'amour, quelle idée est-ce que vous en faites quand vous êtes petit, puis préado, et puis...
Je m'en fais quelque chose, enfin une idée en tout cas très douce. Je vois l'amour autour de moi, mais je pense je vois l'amour dans une configuration qui n'est pas celle d'un maman et d'une maman et d'un papa qui sont ensemble et qui s'aiment à la maison.
Donc ça, c'est le couple et la famille, mais l'amour pour vous, dans votre tête, il est forcément hétérosexuel, petit. Est-ce que vous avez d'autres représentations?
Non, j'ai pas d'autres représentations. Non, à ce moment-là, il est forcément hétérosexuel. Je vois déjà des camarades de garçons à l'école qui ont des amoureuses. Et c'est forcément... hétéronormé.
Alors, il aura d'abord l'amour, le visage de Clara. Clara qui ressemble à la Belle au Bois dormant. Tiens donc, Clara dont les baisers vous feront frissonner jusqu'à ce que vous en ayez le cœur brisé. Ben oui, on n'est pas sérieux quand on a 10 ans. Ouais, sauf qu'à 10 ans, d'autres sensations vous appellent et vous obsèdent. Vous avez 8 ans quand votre mère et votre beau-père déménagent dans le Vercors. La patinoire fait journée porte ouverte, alors par curiosité, vous en poussez la porte et vous y allez. Pour la première fois sur la glace, vous vous élancez, François Mallet. Qu'est-ce que vous ressentez ?
C'est dingue parce que c'était il y a maintenant plus de 20 ans et c'est très très précis. Je me souviens vraiment en plus par quelle entrée on est arrivé à la patinoire. Je me souviens avoir lâché la barrière quasiment de manière instantanée, quoi. Donc de poser les pieds sur la glace et de vraiment sentir une grande liberté. Je faisais déjà un petit peu de roller, mais là rien de comparable. Naturellement, le corps s'est mis à avancer et donc à glisser. Et ça a été vraiment le bonheur absolu. J'étais en train de réfléchir, je suis pas sûr que d'avoir ressenti une nouvelle fois une sensation de liberté en entamant une activité comme ça pour la première fois.
Et puis l'évidence, le fait d'être au bon endroit.
Exactement.
Vous étiez chez vous, quoi.
C'était vraiment un appel, quoi.
Vous êtes doué, alors très vite vous commencez la compétition en régional puis en national. Est-ce que vous savez rapidement aussi que vous allez en faire votre vie?
Oui, en tout cas, c'est l'objectif très clair. Et j'ai toujours été, je me souviens, un enfant, j'étais très bon à l'école, je ne jurais que par ça, j'avais envie d'aller à l'école. Les 2 mois de vacances d'été, je trouvais que c'était trop long. J'ai toujours eu un peu des manies ou des lubies, ou en tout cas très monomaniaque. Et là, le patinage était devenu ma nouvelle raison de vivre. Et comme effectivement, j'étais bon dès les premières compétitions et que ma prof me le faisait sentir, j'avais pas trop de doutes sur le fait que j'allais être aussi bon qu'à l'école. Et comme j'étais le premier à l'école, que j'allais être le premier au patinage, quoi. Voilà. Il se passait autre chose, mais c'était comme ça que je voyais les choses.
Alors c'est peut-être là que ça commence à coincer avec votre père. Pas trop son truc, hein, cet univers, vous le dites, sur scène. Mais vous vous accrochez. Et pour autant, c'est dur, c'est très dur, l'entraînement. Sur scène aussi, il y a ce personnage d'entraîneur dont je suppose qu'il est à peine caricaturé. Pour qu'on se rende compte, ça ressemble à quoi la vie d'un petit patineur? Qu'on mesure,
ça ressemble à des très très vite. Moi, dès l'âge de 11-12 ans, c'est des emplois du temps très chargés. Se lever à 5h du matin pour aller patiner à 6h, pendant 2h avant le début des cours, après les cours, absolument.
J'aurais pu crever.
On n'est pas les seuls, hein. Je sais que les nageurs et nageuses, la piscine était juste à côté, et je crois que ça aurait été pire pour moi, je préfère être sur la glace avec des couches de vêtements que dans de l'eau. Après, quand c'est devenu vraiment du haut niveau au collège, au lycée, non, on me demandait d'être une machine. Et je pense d'ailleurs qu'à ce moment-là, je commençais à avoir de la déprime en moi, mais que je mettais de côté parce qu'il fallait
pas
surtout
droit,
pas craquer.
Pas la place.
Vraiment pas.
Au lycée, vous entrez en sport-études, et puis là, en terminale, après le bac, vous lâchez trop d'efforts, trop de sacrifices, trop d'énergie dépensée pour des résultats qui ne sont pas à la hauteur de ce que vous espériez. Tant pis, vous ferez Sciences Po, et puis du journalisme, hein, commentateur sportif, c'est pas mal. Ouais, c'est ça que vous ferez, le prochain Nelson Montfort, c'est vous. Et en attendant, vive les soirées étudiantes. Étudier à Lille, vous avez largué les amarres, alors c'est l'éclate au départ, ça, le fait d'être parti loin de sa vie de jeune adulte.
Ouais, au départ c'est vraiment l'éclate, il fait encore beau, ce qui est assez rare pour Lille, mais les gens sont très accueillants. Moi j'ai passé toutes mes années lycée sans faire de soirée, sans prendre le temps de discuter avec les gens en cours de récré.
Patinage.
Ouais. Je suis un fantôme, je veux réussir en cours, le patinage, j'ai pas le temps en fait, j'ai vraiment pas le temps. Et là, c'est la découverte, c'est presque un peu vertigineux parce que après les cours, je découvre le fait d'aller boire un demi de Monaco en terrasse, de partir en soirée, de rentrer qu'au petit matin, de se marrer, les premières cuites.
Lâcher un peu la bride, quoi.
Ouais, complètement. Mmh. Et je me souviens me dire, waouh, t'es complètement, François, dans la débauche, alors que je suis encore le plus sage de la bande. Mais ouais, pour moi, c'est vraiment la découverte, en tout cas, de ce qui est mis en avant à ce moment-là comme la liberté. Ouais.
Sur un plan amoureux, vous avez eu depuis Clara quelques histoires d'amant et pas grand-chose et puis plus rien. Comment est-ce que vous vous situez de ce côté-là ?
À ce moment-là, je dirais depuis la fin du collège jusqu'à les premières années à Sciences Po, j'ai l'impression de ne pas savoir qui je suis de ce côté-là. En tout cas, je vois que je n'y réfléchis pas. Alors, est-ce que je me force à ne pas y réfléchir ou non, je ne sais pas, ce qui est inconscient ou conscient. Mais vraiment, je ne sais pas qui je suis.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas de place pour le désir, pour l'amour,
non,
pour l'intime.
Non, pas du tout. Il y a le monde autour de moi. Donc, il y a la littérature, il y a le cinéma, il y a au patin, je vois bien quand même un petit peu que je regarde les garçons plus que les filles se changer dans les vestiaires.
Et ça vous pose question ?
Mais en fait, c'est très bizarre, je regarde.
Vous n'interrogez pas ?
Je n'interroge pas ça, ouais.
Ça n'existe pas.
Exactement. C'est dingue d'ailleurs.
Ouais, mais voilà Noël, votre premier retour en famille depuis votre emménagement à Lille. Là, il se passe quoi ?
Bah là, c'est des souvenirs très douloureux. 24 décembre 2012, je rentre et je... Une énorme sensation de vide que j'avais jamais ressentie auparavant. J'éclate en sanglots dans la cuisine. Il y a ma maman qui est là, qui je crois comprend très vite, parce que je crois qu'elle sent bien ces choses-là. Elle a un bon tempérament dépressif aussi. Et ouais, il y a ces sanglots qui coulent sans arriver à mettre de mots dessus. J'arrive à dire que ça fait quelques mois que je sens qu'il y a un vide qui grandit en moi et qu'il y a une tristesse qui s'est installée. Mais alors, je ne sais pas ce qui la cause. Ouais. Et ça prendra très longtemps avant de déterminer les raisons.
À partir de là, chaque année, pendant 5 ans, chaque hiver, vous sombrerez, cloué au sol plusieurs mois, incapable de sortir du lit, incapable d'avoir la moindre envie. Vous le dites, oui, votre mère connaît bien. Alors elle s'alarme tout de suite, un peu plus que ce généraliste qui vous donnera des plantes pour dormir. Hein. Tournez des psys, toc, 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 ça tourne en rond. Et rien ne vient. To make you feel my love.
cards go hungry, I go black and blue. I go crawling down the avenue. No, there's nothing that I wouldn't do to make you feel my love.
Make you feel my love, Adèle, parce que François Mallet.
Parce que je me souviens, à ce moment-là, on était en colocation avec deux personnes admirables qui ont essayé de me sortir un peu d'affaires. On écoutait beaucoup Adèle et c'était devenu mon réveil pendant les années de dépression, ce qui n'a pas marché du tout. parce que la musique est ultra dépressive.
Mais j'avais quand même envie de vous dire qu'on...
La musique est ultra dépressive.
Ça me réveillait quand même un petit peu,
mais je la trouvais belle. Je me souviens pleurer dès le matin sur cette musique et me rendormir et arriver à aller en cours un peu l'après-midi. Mais ça, c'est vraiment les années dépression pour moi. Ouais.
Heureux soit défilé, c'est le titre de votre seul en scène qui nous prouve bien, qui en doutera encore, que dans la faille se cachent des trésors pour peu qu'on nous laisse l'explorer.
France Inter, En Marge, Julia Foyce.
This is Embankment.
Qu'est-ce que vous faites à Londres, François Mallet? On est en 2015, je crois.
C'est ça. Londres, du coup, c'est mon année Erasmus, donc c'est la troisième année d'études à Sciences Po qu'on fait à l'étranger. Je choisis tout de suite Londres et je suis pris. J'y étais déjà allé une ou deux fois, je sais pas, je sens un peu, sans arriver à me l'expliquer, qu'il y a un truc chouette là-bas. Et je suis là-bas en études, et finalement la seule année pendant mes études supérieures où il n'y aura pas de dépression. Ouais. Et je pense que c'est pas pour rien que c'est là-bas que j'ai découvert et assumé mon homosexualité, qu'il y avait des choses qui étaient restées enfouies pour le patinage et que j'ai repris le patinage là-bas. Et là, ce qu'on vient d'entendre, c'est notamment le métro, la District Line, que je prenais tous les jours pour aller au King's College. Et je me souviens me vivre un peu comme dans le cercle des poètes disparus ou un truc très british, qui en soi aujourd'hui est... me déprime plus que le sud, l'Italie, l'Espagne, où j'ai envie d'aller prendre le soleil. Mais à ce moment-là, comme les feux de l'amour, c'est quelque chose de très rassurant pour moi. Ouais. Et je trouve l'optimisme des Anglais trop chouette à ce moment-là. Et je passe une des meilleures années de ma vie. Ouais.
Premier hiver sans sombrer. Alors oui, les patins, vous les ressortez.
My lover's got humor. She's a giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak, a fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. And me to be well.
C'est sur cette musique que vous remettez donc à patiner, François Mallet. Comment se passe vos retrouvailles avec la glace?
Très bien. très bien. En fait, ce qui me replonge là-dedans, c'est que je vois qu'à l'université, au King's College, il y a un programme, c'est vraiment ce monde anglo-saxon, pour des sportifs de haut niveau. Mm-hmm. J'ai conscience que je ne suis plus un sportif de haut niveau au sens technique du terme, mais je ne sais pas, je tente et j'envoie un message en disant que j'ai fait beaucoup de patinage, que je voudrais reprendre. Je leur dis, vous pouvez même venir me faire passer des tests et voir mon niveau. Et je suis pris dans ce programme-là, ouais. Qui apporte un peu un soutien, des cours de sport gratuits. Et je me dis, bah ok, c'est un signe, reprenons la compétition. Donc je m'entraîne tout seul, c'est-à-dire c'est un peu le système privé, je paye des heures de glace en ayant un job étudiant à côté, et je m'entraîne tout seul. C'est là que je me dis que je vois bien que mes rêves de compétition sont encore un peu enfouis. Je repatine en solo, parce que j'ai commencé en solo, puis après en sport-études au lycée, j'étais en couple, et je choisis cette musique qui, à ce moment, en Angleterre et certainement en France aussi, passe beaucoup. Ouais. Je me dis que c'est une chouette musique, et c'est seulement après que je me rends compte que non seulement ça traite de deux hommes qui s'aiment mais qui se cachent, et que c'est ultra dark, parce que la fin du clip, il y en a un des deux qui se fait brûler par des homophobes. Donc c'est vraiment...
Tout est là, tous les ingrédients sont là.
Toute l'année est là.
Comment est-ce que vous vivez le fait de comprendre que vous aimez les garçons ?
Très difficilement au début, les premiers temps, c'est-à-dire que la première fois, c'est même un garçon, et je m'y attends pas, qui vient m'embrasser dans une soirée étudiante à Londres, et je suis avec des amis filles qui sont persuadées que je suis hétéro, parce que je n'ai rien mentionné jusqu'ici. Ouais. Et même moi, je suis surpris, je me dis non, en fait, ça m'a pas plu. Et puis ça cogite un peu, je m'inscris sur les applications de rencontres, et quelques semaines après, je fais des premières rencontres. Je suis très excité à l'idée de rencontrer ces garçons, et en même temps, après la rencontre physique, notamment l'acte sexuel, me pétrifie. Et ça prend bien, même si c'est une année où je ne fais pas de dépression, je me souviens, je suis quand même allé voir un psy franco-britannique là-bas au début pendant un ou deux mois, parce que ça me remue beaucoup. Hein.
Et néanmoins, vous décidez de le dire tout de suite à vos parents, de dire
oui,
je suis...
tout de suite à ma maman, ouais. Mon papa pas tout de suite, mon papa finalement ça sera quelques mois plus tard, j'attends de rentrer en France, mais ma maman tout de suite, ouais. Mon papa, c'est moi qui décide d'attendre, et certainement a raison de le voir en face to face. Je crois qu'il comprend pas trop, ou en tout cas, soit c'est trop difficile pour lui à accepter, soit c'est quelque chose qui le pose, je ne saurais jamais, peut-être pas tant de problèmes que ça, mais qu'il n'avait pas vu venir, et que du coup il est surpris, et ça se fait entre guillemets de manière un peu humoristique à un repas de Noël, parce qu'on se voit pas beaucoup, et je me dis c'est le moment de lui annoncer, et je lui annonce en plus que je suis en dépression, donc jackpot fait, le strike quoi.
Ça fait beaucoup, il vous dit quoi ?
Il me dit à ce moment-là, écoute, est-ce que tu as un copain en ce moment ? Non, comment est-ce que tu peux savoir ? Mm-hmm. Et pour la dépression, moi je te trouve quand même toujours très enjoué, donc non, t'as pas spécialement l'air triste, et c'est assez compliqué, sur le moment. Il a compris par la suite, et je crois que ça lui a fait beaucoup de bien quand je lui ai présenté mon copain, et qu'il a pu mettre en fait un visage, c'est triste à dire, mais sur une réalité théorique.
C'est-à-dire, quand on dit je suis homosexuel, je pense que les parents... se figure l'acte sexuel, et de toute façon c'est extrêmement dérangeant.
Exactement, dans l'hétérosexualité on entend amour, et dans homosexualité sexualité, donc il y a tout de suite quelque chose de l'ordre de...
On va dire qu'on a toutes et tous encore un peu de chemin à faire.
Ouais, exactement, il y a un truc de l'ordre, disons-le, en fait, de... Ouais, exactement.
Printemps 2016, vous rentrez en France, et à l'été, vous faites votre première et unique phase d'ailleurs, hypomaniaque. Qu'est-ce que c'est exactement ?
C'est une phase, ça peut être plus ou moins long, mais d'excitation qui semble pas forcément pathologique au départ, mais qui finit par le devenir. Donc j'ai pas fait ce qu'on appelle un très très gros virage maniaque. Hypomaniaque, c'est en dessous, mais c'est-à-dire beaucoup plus d'énergie, moins de sommeil. Je faisais des candidatures de stages de fin d'études, j'en ai fait 200. Je disais que je postulais pour des postes de manager, on m'a reçu pour me faire passer des entretiens. Tellement j'étais motivé, tellement il y a un peu un truc d'aura, le messie, quoi, un petit peu. Il y a un truc puis très grisant. J'avais été animateur sur le Tour de France 3 semaines au soleil, à crier dans des micros, et ça dure 4-5 mois, et puis ça retombe, quoi.
Ça retombe, mais c'est à ce moment-là que vous êtes hospitalisé pour la première fois à Paris. Comment vous vivez cette hospitalisation ?
Comme un salut, vraiment, comme un cadeau que je me fais. C'est-à-dire que le fait de retomber en dépression, je connais les mécanismes, du coup j'anticipe, je me dis c'est pas possible, je peux pas repartir dans la même souffrance que les années précédentes. Il faut que je me fasse aider, parce que je continue à avoir des thérapeutes en cabinet, mais ça suffit pas. Et je pousse moi-même en en étant vraiment très soutenu par ma maman et des amis, la porte des urgences du centre expert bipolaire Fernand Vidal à Paris, parce que je commence à me dire, tiens, il y a peut-être une suspicion de bipolarité. Je me rends aux urgences avec mes valises et je dis, je viens m'installer ici, il faut m'hospitaliser, ça va pas, quoi.
Mais l'hôpital public n'a pas les moyens de vous garder très longtemps, vous allez presque trop bien.
Ouais.
Vous sortez, vous partez à Lyon, près des Vosges, vous allez mettre le pied dans une sorte de club med de la psychiatrie, c'est comme ça que sur scène vous l'appelez.
Absolument.
C'est la clinique privée.
Ouais.
C'est ça.
Ouais, c'est la clinique privée. Donc là, c'est oui, c'est bah là pour le coup, c'est des grandes chambres, souvent individuelles, avec tout intégré dedans, la télé, le câble satellite, un grand parc. Et en plus, il fait beau à ce moment-là. Je rencontre plus de jeunes que ce que j'avais rencontré à l'hôpital public. Et du coup. J'en ai un souvenir très joyeux, avec des ateliers où on avance vraiment, on met les mains dans le cambouis, dans le fond du problème, mais un peu de vacances.
Et entre autres praticiens, voici donc celle qui s'est fait une spécialité, disons, de la thérapie par la fougère.
Tu es François ? Entre ! Bienvenue dans le jardin psychothérapeutique. Entre, n'aie pas peur, tu es ici dans un espace de non-jugement qui t'appartient. Je suis la thérapeute, mais tu as autant à m'apprendre que l'inverse. Rapport d'égalité. Je te sens un petit peu tendue. Ok, alors, ici on s'ouvre au monde et on circule. Fougère. On fait la fougère.
Mais ce rire.
Ouais. Première fois que je. Enfin, je n'avais jamais capté.
Ça fait du bien d'être une fougère de temps en temps?
Oui. Alors, je ne me suis jamais senti fougère. Hein. Mais j'aime bien. J'aime bien cette plante. J'aime bien.
Entre-temps, le diagnostic est donc tombé. Vous êtes bipolaire. Qu'est-ce que ce mot vous a fait?
Beaucoup, un très grand soulagement. Je me souviens avoir pleuré de manière très abondante et surtout soudaine. Quoi. Ils étaient très nombreux à rentrer à l'hôpital public. Je pense que j'étais pas un cas d'école, mais en tout cas, ce jour-là, voilà, ils étaient 10 dans la chambre. Donc j'ai senti que c'était pour m'annoncer quelque chose de sérieux. Mmh. Après un diagnostic, ça peut bouger, mais je crois que j'attendais qu'on mette des mots vraiment sur une souffrance. Et du coup, j'aurais pas dit oui, effectivement, c'est ça, à n'importe quoi. Mais ça m'a semblé criant de vérité.
On sait qu'il faut beaucoup, beaucoup de temps pour être diagnostiqué, et souvent pas mal d'années encore avant de trouver le bon traitement, celui qui va vous permettre de réguler des humeurs jusqu'ici un peu extrêmes. Est-ce que ça a été long pour vous ?
Non. Ça a été très rapide et du coup ça c'est super chouette. Il y a eu le traitement par antidépresseur parce qu'on pensait que c'était des dépressions, voilà. Et quand on s'est rendu compte que c'était de la cyclothymie, donc de la bipolarité un peu atténuée, on a commencé du jour au lendemain le thymorégulateur que j'ai encore aujourd'hui, et ça s'est révélé ultra efficace dès le départ.
Quel rapport vous avez avec ce thymorégulateur, avec le fait de devoir finalement prendre un médicament, sans doute à vie? Est-ce que ça change le rapport à soi-même? Ça veut dire que quoi? Qu'on se considère comme malade, qu'on se considère comme en soins, en convalescence, ça.
Je le dis un petit peu dans le spectacle, c'est pas si développé que ça dans le spectacle, mais j'ai un rapport assez, et je crois que ça vient de mes parents, j'ai un rapport presque de confiance, des fois un peu aveugle à tout ce qui est médicaments. C'est-à-dire que je me suis tout de suite dit vraiment en dépression, je vais super mal, antidépresseurs sont les bienvenus, en plus de la thérapie par la parole. Donc là, vraiment, on m'explique comment fonctionne le thymorégulateur, je l'accepte très bien, je le supporte en plus très bien, donc chouette. Et c'est seulement depuis quelques années où je le supporte toujours très bien, où je crois que j'ai vraiment accepté et j'ai aucun problème à me considérer malade. Quelqu'un qui se casse la jambe, bon, bah, il a des béquilles pendant un certain temps. Et si jamais il s'avère qu'on doit l'amputer, bah, il aura des béquilles à vie ou un système à vie. Je pense que c'est un peu la même chose pour ce qui me concerne. En revanche, j'ai de temps en temps des fois des petites périodes où je me dis et si en fait j'étais personne sans ce traitement, ou est-ce que c'est pas en train de changer ma personnalité ou d'atténuer complètement mes émotions? Et en fait, je suis très souvent rassuré parce que je vois bien que quand il y a des sujets qui me font du mal, que je sois stabilisé par le traitement ou pas, je vais avoir des émotions négatives quand même, je vais quand même avoir envie de pleurer. À l'inverse, je peux partir dans une excitation que je trouve raisonnable quand j'ai des bonnes nouvelles et je suis pas amorphe. Mais de temps en temps, c'est vrai que je me dis, il y a quand même un truc de plusieurs centaines de milligrammes qui passent tous les jours dans mon sang, c'est pas anodin. Mais je sais que ça ne change pas ma personnalité. Et quand je reviens à ce fondamental-là, du coup, j'ai plus peur de rien.
Alors, votre personnalité, vous allez la trouver peu de temps après, en fait. Et ceci explique peut-être cela. Vous avez fait vos premiers stages comme journaliste au Canal Plus et au Progrès. Mais en fait, non, c'est pas du tout votre truc, hein, ce terrain-là. Vous allez
non, quitter
assez rapidement parce que, entre-temps, vous êtes allé au théâtre et que vous avez vu ça.
Vas-y, je te présente la coloc. Coucou, la coloc.
Oh, salut les jeunes. Oh, oh, kikou, comme vous dites.
Ma chambre, du coup.
Hein?
Ah, t'as la plus grande de l'appartement.
Bon, avec un grand lit et tout.
Ben, t'es assis dessus.
Ce spectacle, Bienvenue dans la coloc, va jouer le rôle de révélateur pour vous. C'est-à-dire, vous y allez et il y a un avant et un après.
Oui, j'y vais. C'est pas longtemps après ma sortie d'hospitalisation. On est à Lyon, du coup, et je vois ces cinq jeunes s'éclater sur scène dans une comédie où je me dis ni c'est excellent, c'est pas bon, mais surtout, c'est bien ficelé et je les vois s'amuser. Et je me dis, bah, en fait, quelque part, même si je sais très bien que c'est du travail parce que j'ai fait beaucoup de patinage et pour que ça semble facile, c'est des heures de bien boulot. Sûr. Mais je me dis, ça, peut-être que ça en vaut la chandelle et ça m'attire parce qu'ils ont l'air de s'amuser et la vie a l'air beaucoup plus drôle comme ça.
Et que vous vous en donnez le droit aussi d'avoir une vie qui vous amuse.
Complètement.
C'est-à-dire que c'est bon, vous avez coché pas mal de cases, vous avez donné, Sciences Po c'est bien, le patinage, les entraînements, tout ça, vous avez fait. Là, vous vous autorisez à vous amuser un peu. Alors vous bifurquez, atelier théâtre en amateur et puis en pro. Et puis en 2019, votre tout premier seul en scène, Follement Sensible. Voilà, ça aussi, c'est fait.
En marge. Sur France Inter.
J'ai conscience que c'est ultra masculin, hein, ce que je viens de faire, de prendre un problème et bam, de le jarter comme ça. Et pourtant, je suis pas un mec comme ça. Je vous l'ai dit, je suis un mec souvent très sensible. Ça, c'est vrai, parfois beauf. J'assume complètement. Apparemment, pas assez déconstruit pour mon mec, ça me fout en l'air. Non mais, je vous l'ai dit, moi ça m'a pris 10 ans pour tout construire. À 18 ans, j'étais une friche industrielle qu'on n'aurait même pas pu transformer en squat. Et aujourd'hui, quand je l'écoute, apparemment je suis encore trop masculin toxique. Masculin toxique, tout le monde là ? Ouais, tous les mecs qui sont pas en thérapie.
Mais c'est tellement ça, c'est tellement ça. Autre personnage très très important sur votre route, François Mallet, votre psy, parce que vous êtes allé en thérapie, vous en parlez dans ce spectacle. Ce chemin-là, il vous a conduit à quoi ? C'est une forme, l'idée c'est quoi ? C'est d'accepter qui on est dans sa globalité ?
Oui, complètement,
de s'accepter.
Et vraiment, je le vois un peu quelque part aussi dans la continuité. Je me suis fait la réflexion il n'y a pas très longtemps du coach ou des coachs que je pouvais avoir dans le sport de haut niveau, le patinage. Les thérapeutes que je vois ne sont pas en soi des coachs de vie, mais quand on se voit, nos séances, la thérapie par la parole, c'est quand même quelque chose qui, au quotidien, pour moi, est comme un ou une partenaire qui serait là, quoi. Mm-hmm. C'est m'aider à continuer, et au final, bipolarité ou pas bipolarité, à faire en sorte que le quotidien soit supportable. Enfin, j'admire vraiment les gens qui n'ont pas besoin de thérapie pour avoir
une humeur... Mais je ne sais pas qui en a pas besoin.
Je pense que tout le monde devrait se faire soigner, mais disons
ne serait-ce que pour soulager les proches, en fait,
ouais, exactement.
Qui, eux, ils vont.
Exactement, ouais. Mais je les vois comme... ouais, ils m'aident quelque part comme une préparation mentale permanente.
Pour être vous entièrement,
ouais,
qui que vous soyez.
Ouais.
Voilà. Alors, chanter du Johnny à la Gay Pride, oui, vous ferez un jour, plus tard, en revendiquant le droit de pouvoir être gay et beauf. À la fois, les fans de Johnny vont adorer, mais c'est pas lui. Non, c'est pas Johnny que vous pourriez entendre pour l'éternité. C'est plutôt Keen, Somewhere Only We Know. Quel effet vous fait cette chanson-là ?
Beaucoup de bien, ça m'apaise. C'est une chanson que je réécoute beaucoup depuis que je suis arrivé à Paris. Je me suis rendu compte, ça me permet de m'échapper un peu. Ça me rappelle la campagne. Ça me rappelle la nature. Il y a quelque chose qui me glisse dessus, qui m'apaise vraiment comme une méditation un peu de pleine conscience. Et je me souviens l'avoir découvert à l'adolescence, là, en regardant les clips chez mes grands-parents, encore une fois, donc la même télé que Les Feux de l'amour. Il y avait un peu les Feux de l'amour et en ado, cette chanson que j'adorais déjà, qui me permet de m'évader. Ouais.
Et sur votre route avec Keane, jamais très loin de vous un objet que vous êtes déjà en train de triturer,
il est déjà défoncé en plus.
Est-ce que je peux le prendre? J'ai jamais pesé. Alors dites-nous ce que c'est.
Donc c'est ma bottine gauche de ma paire de patins. Je sais pas.
Elle a vécu, hein?
Ouais, elle a vraiment vécu.
J'allais dire, elle sent le vécu, mais je vais pas mettre mes narines dedans.
Ouais,
pardon.
Non. Je pense, heureusement, je patine plus tous les jours, mais oui, ça c'est vrai. Ça c'était l'enfer. Elle a vraiment.
Elle a bien vécu. Ouais.
C'est assez lourd. Hein. En fait, c'est des anciennes bottines de chaussures. Ouais. Comme on pouvait marcher au 18e ou au 19e siècle, où on a mis un peu de mousse dedans et une lame en dessous, mais c'est assez rigide.
Lame blanche, là c'est noir, et puis entre les deux, on a un peu de gris qui nous vient de l'élimer, je dirais, de la bottine. Gauche, c'est important.
Je viens de me rendre compte qu'il y a quand même un truc, je sais pas si c'est inconscient ou pas, mais c'est cette bottine là où les lacets se sont desserrés lors des derniers championnats de France, donc j'ai pris la bottine gauche et pas la bottine droite, donc il doit y avoir quelque chose. Je suis gaucher aussi, donc peut-être que c'est ça automatiquement, mais en tout cas je suis venu avec la gauche et pas la droite.
Vous êtes revenu une dernière fois au patinage en 2018 pour les Gay Games. Aujourd'hui, quel rapport est-ce que vous avez avec ce patin? Qu'est-ce qu'il représente pour vous? Qu'est-ce qu'il représente ce sport? Est-ce que vous pouvez en faire? Est-ce que vous pouvez en regarder?
Oui. J'ai toujours continué à en regarder avec un goût des fois un peu amer, mais pas tant que ça. Donc je pense que ça veut dire que j'ai fait un bon travail sur moi assez rapidement. Mais maintenant, je les regarde, les années ont passé avec plus de détachement. C'est redevenu un objet qui n'est que du positif. Pour moi, parce que les Gay Games, c'était génial.
Qu'est-ce que vous a appris, en fait, le patinage sur vous ?
Le patinage m'a beaucoup appris l'humilité et que j'essaye de continuer à apprendre avec la scène, parce que c'est un peu la même chose.
En marge, c'est terminé pour ce soir. Merci infiniment, François Malheur,
merci
d'être venu nous voir, d'avoir partagé votre histoire avec nous. Heureux soient les fêlés. Spectacle mis en scène par Quentin Amiot, c'est au Théâtre du Marais tous les vendredis à 19h30. Merci à toutes, à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir.